Bien, bonjour, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu hier, je m'appelle Victor Steiner et je travaille pour la société INL, on fait beaucoup de Python. Et durant mon temps libre, j'aime bien aussi regarder un petit peu ce qui se fait en dehors de Python. C'est-à-dire hier, j'ai présenté PyPy, qui l'interprète Python écrit en Python, qui essaye de développer de nouvelles fonctionnalités avec l'existant. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Python 3 ou bien Python 3000 ou encore Py3k, qui est la version abrégée, c'est-à-dire la prochaine version majeure de Python. Et pour information, sur la première page, j'ai mis un missile israélien qui s'appelle Python 3. Et c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à dire Python 3000 que Python 3, parce que ça fait référence à un missile. Donc en gros, les buts de la version majeure de Python 3, pourquoi est-ce qu'on a décidé de casser la compatibilité, pourquoi pas faire un Python 2.6, un Python 2.7, etc. C'est qu'en fait, Guido en avait un peu marre de la version 2.6 qui est sortie il y a 8 ans, qui a des défauts de jeunesse. Donc le but, c'était de faire table rase sur des défauts assez majeurs pour lui, enfin pour lui et les autres personnes qui travaillent sur le projet. Et un des autres buts, c'est de limiter les erreurs du programmeur, c'est-à-dire faire en sorte que le langage soit plus strict en gros. Donc pour rappel, C Python, c'est développé avec des PEP, c'est des propositions d'amélioration pour Python. Et par exemple, là, je n'ai cité 4, mais je ne sais pas, il doit en avoir au moins une bonne vingtaine pour Python 3000. Donc là, c'est la nouvelle manière de formater les chaînes de caractères, les classes abstraites de base, les décorateurs de classes, les identifiants non ASCII, etc. Donc c'est pour dire que chaque modification est longuement discutée, c'est-à-dire que quelqu'un va faire une proposition, elle sera rediscutée, elle va être encore rediscutée, des fois la proposition est rejetée, et parfois elle change complètement à ce qu'il y a initialement, on en refait une deuxième. Mais c'est un développement complètement ouvert, n'importe qui peut participer à ça. Donc pour commencer, pour faire table rase du passé, il faut supprimer donc les fonctions apply qui permettent d'appeler une fonction avec des mots-clés. Maintenant on s'en passe parce qu'on peut passer directement des mots-clés à l'appel de fonction. Callable, buffer, xrange, coerce, etc. C'est des choses qui disparaissent parce que c'est géré de manière différente. C'est-à-dire qu'au niveau fonctionnel, il y a toujours la même chose, c'est juste la manière de décrire le programme qui change. Un des gros changements, c'est le type long qui permettait de stocker des nombres de plus de 32 bits. Ça devient le type de base, le type int, c'est-à-dire qu'ils ont fusionné les deux. Donc pour un programmeur Python, ça change rien du tout. Mais par contre, pour les programmeurs de module C, ceux qui utilisent l'API C de Python, il y aura un seul type seulement. Donc ça simplifie les choses. Et également, les classes, dans Python 2.4, je crois, ils ont introduit les nouveaux types de classes qui permettent d'avoir des propriétés, c'est-à-dire qu'on fait hériter notre classe de Object. Et l'ancien style ne gère pas les propriétés. Donc là, on garde simplement le nouveau, parce qu'il est mieux. Et au niveau de la syntaxe, on pouvait faire une comparaison avec le signe inférieur-supérieur, mais ça prête à confusion, donc il vaut mieux utiliser le point d'exclamation. L'anti-slash bizarre que je sais même pas comment il s'appelle, maintenant on va utiliser la fonction rep qui est plus simple. Et pareil pour la méthode ASCII qui prête à confusion, on utilise l'opérateur in qui est plus clair parce que là on teste est-ce que la clé est dans le dictionnaire. La syntaxe est plus claire et ça évite de. Enfin, c'est plus joli pour lire le code. Et il y a pas mal d'autres changements, là j'ai juste une petite liste pour les changements majeurs. Et un des derniers c'est que le tri d'une liste n'a plus le mot-clé comp. Est-ce qu'on va utiliser le mot-clé key pour dire quelles clés on utilise pour le tri? Un des autres changements majeurs, c'est que énormément d'opérations qui retournaient des listes, comme les fonctions zip, range, map, filter, toutes les méthodes de dict, values, items et keys, avant ça retournait des listes, donc ça créait des listes en mémoire qui pouvaient des fois avoir plusieurs milliers d'éléments, ce qui était inutile parce que les trois quarts du temps, on itère, c'est-à-dire on prend la deuxième, la troisième, la quatrième, et entre-temps, on détruit les objets. Donc, on utilise maintenant des itérateurs qui permettent de créer à la volée et de limiter les allocations mémoire. Et pour revenir à l'ancien modèle, c'est simple, on passe le générateur ou pardon l'itérateur à un objet liste, et là, on peut recréer de nouveau une liste. Donc, un des premiers intérêts de ça, c'est le gain de performance, tout simplement. La bibliothèque standard, ce qui est quand même un point très très important de Python, elle a pas mal été changée aussi pour Python 3000. C'est-à-dire déjà, on a respecté la PEP 8 qui avait été écrite après la création des anciens modules. C'est-à-dire, la PAP8, elle contient des critères pour le nom des modules. Par exemple, on n'a pas le droit de mettre d'espace, ni d'underscore, ni de majuscule. Or, il y avait des modules dans Python de base qui avaient ça. Donc, il y a pas mal de modules dont le nom a changé. Et aussi, il y a énormément de modules anciens qui étaient gardés pour des raisons de compatibilité, mais quand on traîne des vieux modules, finalement, on perd du temps, on perd des performances, on doit maintenir du vieux code. Donc, ils disparaissent tout simplement. Et pour ceux qui voient MD5, c'est simplement que maintenant on utilise hutils pour calculer n'importe quel hash plutôt que MD5. Pour moi, la grosse nouveauté qui m'intéresse le plus dans Python 3000, c'est la distinction réelle entre octets et caractères. C'est-à-dire que dans Python 2.2, on avait les types str et unicode. Str, c'est des chaînes d'octets, unicode, c'est des chaînes de caractères. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un octet? C'est simplement un nombre entre 0 et 255. Un caractère, c'est un chiffre, une lettre, une ponctuation, c'est ce qu'on écrit avec un stylo sur une feuille de papier. Et Unicode, c'est une liste de tous les caractères qui existent sur la Terre, dans tous les pays. Il y a le Tibet, il y a des alphabets inuits, etc. Alors qu'on confond souvent Unicode et ISO 8859-1 ou bien UTF-8, qui sont simplement une méthode de sérialisation. Qu'est-ce que c'est que la sérialisation? C'est-à-dire qu'on a des caractères et on va les convertir en octets pour les envoyer sur le disque dur, l'écran ou bien le réseau. Donc disons qu'avant, il y avait déjà la distinction entre octets et caractères, mais c'était mal utilisé. C'est-à-dire qu'intuitivement, str, pour un programmeur, ça fait penser à string, donc une chaîne de caractères. Alors que c'est faux, str, c'était une chaîne d'octets. Et ça prêtait pas mal à confusion. On avait souvent des erreurs de décodage Unicode lorsqu'on affichait une chaîne à l'écran. Donc là, le type str devient bytes. Donc maintenant, il n'y a plus de doute possible. Bytes, c'est des octets. Et str, c'est l'ancien type Unicode. Donc là, ce que j'ai mis comme premier exemple, c'est que quand on écrit une chaîne ABC, ce sera une chaîne Unicode. Donc le type str. Et quand on prend le premier caractère, on a le caractère A. Et la grosse différence, c'est que l'ancien type str qui devient bytes, donc c'est le deuxième exemple avec le préfixe B. Bah, quand on prend la première valeur, en fait, c'est un nombre. Parce qu'un octet, c'est tout simplement un nombre. Donc si on veut faire des comparaisons comme ce qu'on avait avant, on peut dire qu'on prend le sous-ensemble qui fait juste le premier caractère, donc là on retrouve bien le B. Et oui, le type bytes, il perd les méthodes isAlpha, upper et decode, tout ce qui est relatif aux chaînes de caractères parce que ça n'a plus de raison d'être. Donc je pense que ça va corriger beaucoup de problèmes au niveau de l'internationalisation. Et Python 3000 apporte énormément de fonctionnalités, et une qui était très souvent demandée, c'était les gens qui venaient de C++ et Java. Ils étaient assez frustrés parce qu'ils passent des nuits entières à choisir les codes, à choisir les types, à changer les types, et ils sont frustrés parce que là, ils n'ont plus de travail à faire et ils sont frustrés. Donc là, Guido a dit, bon, allez, je vais vous faire une concession, maintenant on aura le droit d'écrire les types. Donc c'est l'exemple que j'ai mis sur la deuxième ligne, c'est-à-dire qu'on met double point, on peut annoter n'importe quoi. Donc là on a mis int, mais ça pourrait très bien être d'une classe abstraite de base qu'on verra après. Et on a aussi avec le type de retour, avec la flèche, c'est tiret, signe supérieur. Donc Python n'utilisera pas ces informations, c'est-à-dire qu'on peut écrire int, mais c'est pas pour autant qu'on aura une erreur lorsqu'on appelle la fonction. Et je pense que très rapidement, il y aura des outils comme PyLint, PyChecker et PyFlex qui vont exploiter ces informations pour faire une analyse statique du code. Et peut-être des décorateurs aussi, on verra bien. Un des gros problèmes qu'il y a avec les appels de fonctions avec des mots-clés, c'est qu'on peut appeler la fonction sans spécifier le mot-clé. C'est-à-dire que là, j'ai une fonction qui affiche quelque chose. Il y a trois arguments, il y a prix, monnaie et nom. Monnaie et nom sont optionnels, donc on peut les spécifier par mot-clé, mais Python 2.3 et enfin toute la version 2 autorise en fait de chaîner simplement les arguments, et Python va deviner tout seul où est-ce qu'ils vont, selon l'ordre. Mais le problème, c'est comme dans l'exemple que j'ai mis en dessous, ben moi je voulais spécifier le nom, donc là c'est une voiture, et en fait je me suis trompé, j'ai mis ça dans la case monnaie. Donc là, il y a un petit changement, c'est une étoile qui se met avant les mots-clés, et c'est-à-dire que tout ce qui suit va obligatoirement être appelé explicitement avec le nom. Donc là, pour la ligne qui est en dessous, on va dire que la voiture, c'est le nom, c'est l'argument nom. Ce qui est très utile lorsqu'on a une fonction qui n'a pas trois arguments comme dans mon exemple, mais 10 ou 20 arguments optionnels. Et vous pouvez observer aussi quelques petits changements au niveau de la syntaxe. Avant, pour écrire le caractère euro, on est obligé de passer en Unicode, donc j'ai mis un petit U en préfixe. Et la fonction print n'avait pas de parenthèse. Et dans Python 3000, maintenant, la parenthèse est obligatoire pour la fonction print parce que c'est devenu une fonction. Alors qu'avant, c'était un mot-clé. C'était un cas très très particulier qui était très embêtant quand on voulait définir notre propre fonction print. Voilà pour les annotations. Et pour les classes abstraites de base, ça c'est un autre besoin qui était souvent demandé, qui a été émulé en fait dans Zop. Ils ont créé Zop.interface. Donc là c'est à peu près des interfaces, mais je ne connais pas la distinction exacte. Ils appellent ça les Abstract Base Classes, ABC, abrégé en ABC. C'est assez similaire aux interfaces, c'est-à-dire que quand on a un objet, on va dire qu'il implémente une caractéristique particulière. Donc il y a une trentaine ou une quarantaine de types d'ABC de base. Par exemple, hashable, c'est-à-dire qu'il y aura une méthode hash tout simplement. Size, c'est-à-dire qu'il y aura une méthode len. Mutable set, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des éléments dans l'ensemble. Séquence, c'est-à-dire qu'on peut itérer sur chaque élément, etc. Donc pour ça, en fait, on pourra utiliser isInstance pour vérifier si l'objet implémente justement cette classe abstraite de base. Une utilisation pratique, c'est les gens qui font des calculs scientifiques, qui manipulent des bibliothèques comme... je ne sais plus comment elles s'appellent, enfin, il y a différentes bibliothèques mathématiques qui réimplémentent les types, type réel, type complexe, etc. Et ils n'avaient pas d'outils pour distinguer quels sont les différents types numériques. Donc là, ils ont créé Number, Real, Rational, Integral. Ça, c'est, j'ai mis le signe supérieur parce qu'en fait, c'est une histoire de type qui est de plus en plus grand. Donc, il y a un ordre qui a été décidé. Il y a également le type complexe et la valeur qui peut être exacte ou inexacte. C'est-à-dire que quand on a un espace mémoire réduit, quand on divise 1 par 7, on ne pourra pas stocker toutes les décimales parce que c'est une suite infinie en décimales. Donc, on aura un type inexact au lieu d'exact. Et ils vont également rajouter les méthodes trunk, floor, sail et round pour pouvoir personnaliser les appels à trunk, floor, sail et round justement. Les entrées-sorties, c'est également un gros travail qui est obligatoire étant donné le passage de str Unicode à bytes str. Et pour ça, ils ont tout remis à plat, ils se sont pas mal inspirés de Java pour les entrées-sorties et ils ont créé des API assez haut niveau avec différentes implémentations. La première API, c'est les entrées-sorties raw. En gros, ça lit des octets, donc ça, les fonctions de lecture et d'écriture utilisent le type bytes. Et il y a des attributs comme readable pour savoir si on peut lire ou non le fichier, seekable, c'est-à-dire si on peut revenir en arrière, aller en avant, etc. Et également les méthodes magiques comme enter et exit lorsqu'on utilise le mot-clé with. Les entrées-sorties temporisées, ben simplement on va rajouter un cache en lecture et en écriture. Les entrées-sorties texte, ben c'est ce qu'on avait déjà avant, mais sauf que maintenant l'ancien type Unicode maintenant devient str. Donc une des différences c'est que read renvoie un type str. La fonction seek n'accepte plus les entiers parce que étant donné qu'un caractère UTF-8 peut être découpé en plusieurs octets, on peut pas aller au milieu d'un octet. Donc on pourra pas la fonction seek utilisera forcément un objet seekable qui vient de la fonction tell. Et bien sûr, il y a aussi le support des retours à la ligne universelle, c'est-à-dire qu'on peut lire un fichier Windows, Mac ou Unix de la même manière, ce sera toujours découpé au retour à la ligne. En quoi un autre type, c'est les entrées-sorties non bloquantes, c'est-à-dire que si les données ne sont pas disponibles, read et write vont renvoyer none ou 0. Et enfin, ben, bien sûr, il fallait une autre distinction pour l'ancien type string.io. Ben, il y a bytes.io qui a été créé, qui lui gère les octets, et string.io qui gère les caractères. Donc pour rappel, en fait, c'est des API qui simulent l'API d'un fichier, alors qu'en fait, en mémoire, c'est stocké dans une chaîne de caractères. Alors une autre nouveauté qui est très sexy, c'est la méthode de format qui permet de formater les chaînes de caractères, parce qu'en informatique, c'est quand même 10 à 20% du boulot, c'est de formater du texte pour l'utilisateur, parce qu'un programme, il n'a aucune raison d'être si ce n'est d'être utilisé par les utilisateurs. Donc on peut l'utiliser de différentes manières, soit sous forme de fonction. Donc dans le cas de la fonction, on passe l'objet en premier argument et la chaîne de formatage en second argument. Donc là, c'est un petit peu un printf inversé. Et sinon, l'usage le plus sympa, c'est que la chaîne de formatage, on appelle une méthode de format. Donc là, par exemple, on voit tout de suite qu'on peut inverser l'ordre des arguments. Donc au lieu d'écrire Steiner Victor, ça va écrire Victor Steiner. On peut également spécifier des dictionnaires. Dans mon deuxième exemple, il y a un dictionnaire qui s'appelle Info. Et on peut lire des clés en spécifiant le nom de la clé. Bien sûr, on peut personnaliser le formatage. Par exemple, le double point 20, ça va élargir à 20 caractères au minimum. Donc là, j'ai mis Victor qui ne fait que quelques caractères. Ça va compléter avec des espaces. On peut aussi faire la même chose, mais en spécifiant dynamiquement le nombre de caractères qu'on veut. C'est par exemple quand on veut écrire sur la sortie standard et faire un joli tableau pour que tout soit bien aligné. Ben là, on va dire que ce sera une largeur de 20. Et après, faudra lire la documentation parce que c'est très 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 complet. Il y a énormément d'options et c'est vraiment très sympa. Donc là, je n'ai mis juste un. C'était la fonction rep qui avant utilisait %r. Donc maintenant, on met l'argument point d'exclamation r pour dire rep. Comment est-ce que ça va se passer pour la migration de Python? Parce que je sais pas s'il y en a qui ont vécu la migration de PHP 5, pardon, PHP 4 à PHP 5. Ça a créé un énorme problème au sein de la communauté, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient complètement opposés à la nouvelle version parce qu'ils disaient que ça casse du code, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas programmer, ils écrivaient n'importe quoi avant. Et vu que le langage est devenu plus strict, ça marchait plus. Et il y a ceux qui étaient en PHP 5 qui disaient que l'ancienne version était pourrie, donc ça fait un gros clash. Et encore aujourd'hui, il y a des applications qui marchent que en PHP 4 ou que en PHP 5. Et Python essaye de limiter la casse, même si ça va pas être très facile. Donc déjà, il y a une version Python 2.6 qui va sortir exactement le même jour que Python 3000. C'est très simple, c'est que cette version, pour la branche 2.0, elle va servir à aider énormément pour la compatibilité. C'est-à-dire que la fonction, que tous les modules qui changent de nom, maintenant il y aura un avertissement pour utiliser le nouveau nom, mais si on utilise l'ancien, il y avait un avertissement. Si on utilise les signes de comparaison ou les choses interdites, il y aura un avertissement. Donc le but en fait c'est de préparer la migration pour qu'elle soit la moins douloureuse possible. Et pour ceux qui se posent la question est-ce que je dois coder en version 2 ou en version 3, bah déjà aujourd'hui la version 3 n'existe pas donc ne l'utilisez pas. Mais si vous voulez la tester, il y a une version alpha qui existe, bah vous pouvez prendre votre code en version 2. Il y a un outil qui s'appelle 2.2.3 qui sert simplement à convertir automatiquement. Merci pour mon très bel accent. Qui sert à convertir l'ancienne syntaxe, mais également le nom des modules et des détails assez délicats comme keys, la méthode keys de dict qui renvoyait une liste qui maintenant renvoie un itérateur. Donc en gros, ne faites rien à votre code, utilisez simplement cet outil, c'est la recommandation qui a été faite. Et donc, comme je disais, il y a des avertissements qui ont été mis par Python 2.6. Donc là j'ai essayé de résumer en 30 minutes ce qui a changé dans Python 3000, mais il y a vraiment énormément de choses. Vous pouvez aller voir les PEP sur les sites de python.org qui listent tous les changements, parce qu'il y a encore des choses assez impressionnantes comme le nom des symboles, c'est-à-dire le nom d'une variable qui va maintenant être sous forme Unicode, c'est-à-dire qu'on pourra mettre des noms d'accent dans nos fonctions, dans nos variables, on pourra écrire en chinois, on pourra écrire en coréen. Donc pour les trollers qui disent « Ah mais moi je sais pas lire l'allemand, je sais pas lire le coréen », en fait, c'est simplement que Python, comme d'habitude, laisse la possibilité aux programmeurs d'utiliser ce qu'ils veulent. Pareil pour la spécification des types. S'ils veulent, ils spécifient les types, mais c'est pas obligatoire. Donc là, si un logiciel veut avoir des utilisateurs, pardon, des contributeurs dans le monde entier, je pense que le coréen ou l'allemand, c'est pas le meilleur choix. Le français non plus, je suis désolé. Ça va plutôt être en anglais, qui est quand même très très bien compris par tout le monde sur la Terre. Et une des autres nouveautés, c'est les décorateurs de classe, c'est-à-dire qu'avant on pouvait faire des décorateurs de fonctions, là ce sera pareil pour les classes. Donc là, allez voir la PEP si vous voulez les détails. Et comme dit, il y a vraiment énormément de choses, donc allez chercher un peu par vous-même si ça vous intéresse. Donc, quel est l'état actuel du projet? Donc comme je disais, il y a une version alpha qui est disponible. Version alpha, ça veut dire en général qu'il y a des bugs. Bon, moi j'ai testé pour des codes simples, il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Mais sauf que depuis, je crois que ça fait un an qu'ils sont sur ce chantier, il y a eu vraiment des gros, gros, gros changements qui ont été faits. Par exemple, quand ils ont introduit le type bytes et le type str qui ont changé, c'est un peu cassé, mais là, c'est en train de se stabiliser. Et la prochaine version alpha, pardon, bêta devrait sortir dans quelques mois. La version finale, ce sera pour septembre. Ouais, donc là, ils ont fait les changements majeurs. Donc la fusion, le type int, c'est long. La séparation de bytes et Unicode. Le nom des la bibliothèque standard est en train d'être nettoyée. Mais il y a déjà vraiment un énorme boulot qui a été fait dessus. C'est-à-dire que Python 3000 est tout à fait utilisable. Et enfin, normalement, c'est à ce moment-là que vous vous réveillez parce que c'est le moment de poser des questions. Il faudra un micro, bien voir, je vais répéter les questions. Dites-moi, oui. Pour les décorateurs de classe, je ne pourrais pas te répondre parce que j'ai pas lu la PEP et il me semble que ce n'était pas encore implémenté. Mais je pense qu'en gros, c'est que quand tu vas créer ta classe, ça va passer dans une fonction et après tu pourras faire des opérations sur ta classe. Il y avait une autre question devant. Bah disons que Python 3000, c'est pas, ils n'ont pas tout cassé, ils n'ont pas décidé de tiens, on va faire une version PHP 5 qui marche plus, on va tout casser. Et c'est surtout des changements au niveau du langage et au niveau des types. La bibliothèque standard change assez peu. C'est-à-dire que les bibliothèques anciennes qui sont complètement désuètes, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus documentés ou des choses du genre, ont disparu, mais TK restera la seule bibliothèque standard intégrée. Non, ils ont pas décidé de réinventer le langage Python, il n'y a pas de choses comme ça qui a été faite. Mais ils ont pas mal uniformisé le nom des modules. Par exemple, base HTTP server, ça devient HTTP.server. Donc en quelque sorte, c'est un petit peu des espaces de nommage. Il y a d'autres questions derrière?
Est-ce qu'on sait si des gros projets comme Zop ont décidé un jour de passer à Python 3/4, enfin quand à peu près?
Ben, comme dit, il y a un outil qui s'appelle 2to3 qui sert à convertir du code version 2 en version 3. Donc théoriquement, si l'outil est parfait, Zop pourrait fonctionner directement en Python 3000. Mais je doute que sur un projet d'une telle envergure, l'outil marche. Donc après, ce sera à la communauté Zop de faire le choix. Je pense que qui vivra verra, quoi.
Pourquoi tu voyais les signatures sur les méthodes d'un mauvais œil? Parce que enfin, moi, il y a un constat que je fais, c'est que, par exemple, sur Eclipse, il y a une des puissances de Java, c'est que les gens, avec la complétion, se mettent très rapidement au langage et appréhendent les API de manière très rapide grâce aux signatures. Donc, je trouve que pour moi, c'est une bonne chose.
Ben, disons une des puissances de Python en général, c'est le doctyping, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un objet sans vérifier son type, c'est-à-dire qu'on passe un objet et on va appeler une méthode et on espère que ça marche. Et dès lors qu'on passe un objet du bon type, il n'y a pas de souci, la méthode va être appelée. Et si on a passé n'importe quoi comme objet, ça va lancer une exception. Et à ce moment-là, c'est à nous de gérer l'exception proprement. Donc je pense que si on imposait, par exemple, si on forçait la spécification du type, ça empêcherait complètement le doctyping. Et maintenant, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Bah, comme dit, ce sera tout à fait optionnel, c'est-à-dire que ce sera simplement indiqué et ce sera au programmeur ensuite de toujours faire la vérification des types. Donc ça peut être une bonne chose, mais moi j'adore le doctyping
Je suis entièrement d'accord pour le duck typing, hein. J'aime beaucoup.
Bon, y a aussi un autre avantage, c'est que hier on a eu une présentation, là, pour rappel, la présentation d'ouverture, apprenez d'abord Python, qui disait qu'en C, il y a un type char, int, short et long pour les entiers. Donc ça prête à confusion pour quelqu'un qui ne connaît pas les types. Il n'a pas envie de savoir qu'il y a des types. Il apprend déjà tellement de choses que ça va l'embrouiller. Donc pareil, pour un débutant qui voit du Python, il n'a pas besoin de déclarer ses types dans les fonctions. Et c'est très proche de ce qu'il écrirait pour un algorithme. Et je pense que c'est aussi une des forces de Python d'être très très peu verbeux et de faire du code compact qui marche. Donc maintenant, il y a le débat ouvert de est-ce qu'on met des types ou pas, mais je pense qu'on pourra les troller dans le couloir après, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Python 3000 ou... Oui? La question, c'était sur les performances de Python 3000. Ben, disons que Ils ont passé à peu près un an à casser tout le code, à le réécrire 4 ou 5 fois, donc je pense pas qu'ils se soient souciés beaucoup des performances. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend avec l'expérience pour l'optimisation, c'est que d'abord on va casser du code et faire en sorte qu'il marche, et après on va passer du temps sur l'optimisation. La fusion du type int et long, ça a été assez pénalisant, c'est-à-dire qu'au début il y avait des pertes de performance genre 50%, après c'était 30%, après 20%, et peut-être qu'à terme ça va être un surcoût, disons minime. Mais le gain pour le programmeur est tellement important que je pense pas que ça pose vraiment un problème, quoi.
Pour suivre assez souvent, enfin, sur Python Dev, on s'aperçoit que ils se rendent compte 2 mois ou 3 mois avant la sortie de la release qu'ils ont 20% de retard sur pas mal de domaines, donc ils font des sprints Need for Speed. Et en général, ils s'aperçoivent que, enfin, en une semaine de sprint, ils sont passés de moins 20% à plus 5%, plus 10%. Mais ils le font vraiment à la fin.
Bah, la sortie version est prévue pour septembre, donc si tu veux aider, il n'y a pas de souci. Ou s'il y a des gens dans la salle qui sont très doués pour écrire des compilateurs, des interprètes en C, parce que pour rappel, c'est écrit en C, il n'y a pas de souci, vous pouvez aider, quoi.
Oui, j'ai vu que le module 7 disparaissait. C'est un module récent qui date de Python 2.4.
Oui.
Est-ce qu'il est remplacé ou il
il y avait
disparaît?
quoi dans ce module?
C'est la gestion des ensembles, union, intersection, etc.
Bah, disons qu'il n'y a plus besoin de module parce que maintenant il suffit d'écrire 7 et ça suffit. Et d'ailleurs, il me semble qu'on peut aussi écrire une notation maintenant, c'est une nouveauté de Python 3000 avec des accolades pour définir des ensembles. C'est simplement une variante comme pour les dictionnaires, quoi. Donc en fait, Python 3000, niveau fonctionnel, c'est quasiment identique, quoi. C'est juste la syntaxe qui est un petit peu plus jolie, quoi. Oui, encore une question? Sur les threads? Je le répète, ils n'ont pas voulu faire de gros changements majeurs dans Python, ils n'ont pas réinventé la roue, ils ont juste essayé de faire des petits changements pour éviter de scinder la communauté en version 2 et version 3. Donc au niveau de la gestion des threads, j'ai rien entendu de. Je pense qu'ils ont laissé tel quel, quoi. Donc il n'y aurait aucun changement. Je pense que si tu veux des choses intéressantes, tourne-toi plutôt du côté de PyPy qui fait pas mal d'expérimentations très intéressantes que sur la programmation concurrentielle ou dans Stackless aussi. Il y aura sûrement un logo à poser sur le site web compatible Python 3000. On va peut-être arrêter les questions parce qu'il y a un concours
Non, en
derrière
fait,
pour gagner des prix.
quel impact ça va avoir sur les projets comme Pipi que tu as présenté hier ou Giton qui vont rester à Python 2 avec la vieille syntaxe? Est-ce que tu n'as pas peur que ça ralentisse grandement l'adoption de Python 3?
Bah disons qu'actuellement, C Python, ça a toujours été en avant sur tous les concurrents, c'est-à-dire que. Il me semble que dans la communauté Ruby, ils ont une sorte de spécification du langage, alors que en Python, il n'y en a pas du tout. En fait, c'est l'interprète de base, C Python, qui sert de standardisation. Donc, il faut d'abord que C Python soit écrit pour que les autres puissent le copier. C'est un petit peu bête, mais c'est comme ça. Et dans PyPy, ils ont pas les développeurs pour s'amuser à faire une version compatible 3000, donc je pense pas que ce sera fait. Giton, il y a Sun qui pousse derrière, donc peut-être qu'ils vont essayer d'employer un développeur pour faire ça. Enfin, on verra bien comment ça se fait, mais ça va sûrement se faire sur 3, 4, 5 ans, quoi. Ça va pas se faire du jour au lendemain, je pense. Je vous remercie.